Alors, les produits sur les animaux domestiques, les antiparasitaires, donc les antitiques, les antipuces, les produits anti-mouches, anti-moustiques qu'on met, les petites fleurs jolies qu'on met sur les carreaux, c'est des organophosphorés qui sont interdits en agriculture, par exemple. Donc, il y a ce type de choses. Et puis, peut-être quelque chose qui sort du domaine des pesticides. Je ne sais pas, les collègues qui sont cliniciens ou plutôt cliniciennes, parce que c'est pareil pour les professionnels, je me sens un peu seul. Donc, concrètement, en amont, en termes de prévention, il faudrait, dans mon sens, il faudrait avertir ce qui se passe un peu en Angleterre, en tout cas, et en Suède, par exemple. C'est que quand il y a une grossesse en cours, de dire que c'est une très mauvaise idée de repeindre à neuf et de refaire à neuf la chambre du futur nouveau-né. Parce que là, au-delà des pesticides, on va remettre en suspension tout un tas de produits, de colle, etc., dans une pièce qui va être un petit peu chauffée, etc. Et c'est une très, très mauvaise idée de refaire la chambre à neuf juste avant d'accueillir le bébé. Donc ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, en termes de prévention, on devrait avoir un accompagnement un peu plus sérieux sur ce qui va se passer pour accueillir le bébé. Donc, au-delà des pesticides.
Ça concerne aussi les insecticides sur prise
Tout
électrique.
à fait, tout à fait.
Il
Et
y
là,
en a
c'était,
plusieurs pour le
c'est
coup.
ça. Et donc, regardez par exemple quand on boit de l'eau contaminée par des pesticides dans notre pays. Donc, à peu près, les taux de contamination qu'on peut avoir au maximum, c'est autour du microgramme par litre. Donc, en gros, on va avoir 1,5 microgramme par jour quand on boit de l'eau contaminée par des pesticides. Si vous faites un petit calcul de la dose qu'on se prend quand on met une petite plaquette anti-moustique, c'est l'équivalent, une nuit avec une plaquette anti-moustique, c'est la même chose qu'une année de consommation d'eau contaminée par des pesticides. Donc clairement, ça n'a rien à voir en termes de dose. Donc ce n'est pas le problème de l'eau pour la santé humaine, c'est le problème de ce qui se passe en usage domestique, notamment.
Et pour les produits ménagers, on a des données.
Alors, à ma connaissance, beaucoup moins. En tout cas sur les cancers pédiatriques. C'est possible qu'il y ait des données clairement un peu, mais à ma connaissance, beaucoup moins que sur le tabagisme et l'alcool. Et déjà, le tabagisme et l'alcool, ça s'appuie sur pas un très grand nombre d'études.
Et ces données-là, on les a vues.
Ces données sur.
Vous avez parlé.
Alors, c'est des données qui sont soit dans des revues d'épidémiologie, soit qui sont dans l'expertise collective interne, par exemple, que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, ça, c'est sur le site de l'INSERM, expertise collective, vous pouvez récupérer ce type d'informations. Oui.
Il n'existe pas aujourd'hui de recommandations accessibles à propos
Il y a des sites institutionnels, mais non, il n'y a pas de recommandations, à ma connaissance, organisées en France sur cet aspect-là. Mais c'est un peu l'exemple des absences de recommandations sur tout un tas d'attitudes de prévention. Globalement, et pas simplement sur les pesticides, pas simplement sur les produits autour de la petite enfance.
Et du coup, on a une petite question. Comment expliquer justement l'absence de mesures de politique générale face à ces chiffres sur les pesticides et les riverains de terres agricoles, par exemple?
Alors, les riverains, si, ça fait beaucoup, bon, vous en avez tous entendu parler. Ceci dit, c'est beaucoup moins rationnel de légiférer sur les riverains, alors que les données sont avec beaucoup de points d'interrogation, que sur d'autres produits où il y aurait facilité à légiférer pour, quelque part, réglementer plus sérieusement les produits qui sont mis dans les jardineries, etc., ou dans les supermarchés et qui sont vendus comme ça, sans aucun problème et sans accompagnement. Et puis faire attention aux fausses bonnes idées, c'est-à-dire que les shampoings anti-pousses, et maintenant, depuis un an et demi, je crois, si vous voulez acheter un shampoing anti-poux insecticide, vous devez passer par un médecin, une ordonnance. Donc, du coup, c'est bien d'une certaine façon. Mais il y a des personnes, ben, je ne vais pas aller déranger mon médecin, puis c'est compliqué dans certains territoires d'accéder à un médecin, et je ne vais pas y aller pour demander une ordonnance pour avoir un anti-poux. En plus, si ça se trouve, je vais y aller, et ça sera dans une semaine. Donc, les poux, ils sont là, ils ne sont pas dans une semaine. Et donc, il y a des détournements d'usage en pharmacie, avec des gens qui achètent des insecticides pour l'ambiance, et qui vaporisent la tête de leurs enfants. Donc, ils brûlent le cuir chevelu de leurs enfants. Mais, comme on n'interdit pas la vente de ce type de produit, c'est vendu en pharmacie, donc si on ne questionne pas la personne sur quel usage avant de faire, on peut avoir ce type de dérive.
On va s'arrêter là.
Hein?
Merci pour vos questions et merci pour votre intervention.
Bon, merci beaucoup déjà de m'avoir invité à participer à ce webinaire et parler de ma pratique de psychologue clinicienne au sein du service d'onco-hématologie pédiatrique. Juste deux mots sur mon parcours. Moi, je suis diplômée depuis 2013 du master de psychologie clinique de l'Université de Caen et je travaille donc depuis 2014 au sein du CHU avec une pratique à 50% en unité médico-judiciaire et une pratique à 50% depuis 2016 au sein du service d'onco-hématologie pédiatrique. Donc, dans le service d'onco-hématologie pédiatrique, on accueille donc principalement des enfants effectivement atteints de cancer et on accueille aussi une autre partie du public qu'on accueille, ce sont des enfants qui sont porteurs de maladies immunologiques ou hématologiques, dont des maladies chroniques hématologiques, par exemple la drépanocytose. Donc, moi, j'interviens auprès des deux publics, mais évidemment, ici aujourd'hui, je vais seulement parler de la pratique auprès des enfants atteints d'un cancer. Donc, voilà, vu qu'il y avait peu de temps, je vais me centrer vraiment plutôt sur ce que je propose comme type de prise en charge et comment je travaille auprès de ces enfants. Et je ne vais pas approfondir sur l'ensemble des conséquences psychologiques puisque j'ai peu de temps. Au sein de ce service, je propose donc une clinique qui est directe auprès des enfants, des adolescents atteints de cancer et de leurs familles. Concrètement, ce sont des entretiens psychologiques qui sont à destination des enfants, des ados et leurs familles. Dans leur famille, c'est particulièrement les parents et leur fratrie, mais dans certaines configurations familiales où un autre membre de la famille a une place importante, il m'arrive de recevoir aussi des grands-parents, des oncles et tantes, etc. Cette clinique auprès des enfants, ados et de leur famille, elle va commencer à partir du moment de l'annonce. Et dans le service, on a toute une réflexion autour de ce moment d'annonce qui nous semble extrêmement important dans le cancer de l'enfant. Ensuite, cette pratique se poursuit sur tous les temps d'hospitalisation de l'enfant, durant également le suivi à moyen terme et à long terme, donc quand les enfants sont sortis des soins actifs du service mais continuent à être suivis par un médecin, il m'arrive fréquemment de continuer à les rencontrer, voire même de débuter certaines prises en charge à ce moment-là. Lorsqu'intervient la mort de l'enfant, je propose des suivis de deuil pour les parents et les fratries. Donc ça, c'est vraiment pour l'aspect clinique directe auprès de ce public. En clinique un peu plus indirecte, je propose du soutien aux équipes médicales et soignantes. Ce soutien, il se fait vraiment plutôt dans un aspect informel. Donc c'est vraiment une clinique du quotidien. Il y a peu d'espace formalisé pour soutenir les équipes, puisqu'en fait, on s'aperçoit que quand on propose des espaces formalisés, c'est pas forcément ceux qui tiennent. Mais en tout cas, la clinique de l'informel et du quotidien nous semble avoir beaucoup de sens. Je participe également à tous les projets de réflexion institutionnelle autour de l'accueil et le soin et l'accompagnement des enfants, ados et de leurs familles. L'idée, vraiment, moi, j'attache beaucoup d'importance à cette pratique-là, au projet institutionnel, puisqu'en fait, quand on va réfléchir en équipe, on va permettre déjà d'envelopper finalement l'enfant et la famille par l'ensemble des projets qu'on met en place. C'est important, dans le cancer de l'enfant, on pourrait avoir la représentation que l'accompagnement psychologique, c'est être dans un bureau avec un enfant. On se rend compte par rapport à la temporalité du cancer et par rapport aux mécanismes de défense surtout que les enfants mettent en place à partir du moment de l'annonce de leur cancer, que finalement, le soutien psychologique, il va se faire sur l'ensemble de la prise en charge. Donc, nous, on a l'habitude de dire, et c'est comme ça qu'on travaille dans le service, que l'accompagnement psychologique, il est un peu… chaque soignant apporte un soutien psychologique à l'enfant. Et lorsqu'on réfléchit en équipe à des projets de soins, à des projets institutionnels, on garantit quelque chose quand même à l'enfant d'une pensée pour lui, pour son soin, pour son accompagnement. Donc, c'est vraiment la façon qu'on a de travailler. Et puis, dans ce service aussi, je participe à des actions de formation et recherche. Donc, j'assure notamment avec Béatrice Dujarrier et Dr Baudet, un des médecins du service, une formation en simulation à l'annonce de mauvaises nouvelles. Là encore, c'est un projet qui nous semble très important de pouvoir sensibiliser l'ensemble des professionnels. C'est que l'annonce de la mauvaise nouvelle et à tous les effets de l'annonce chez les parents et les enfants. Je participe également au groupe SHS du GOCÉ. Donc, le GOCÉ, c'est le groupement Ouest des cancers de l'enfant, qui se charge un peu de projets de recherche autour du cancer de l'enfant. Et donc, le groupe SHS, c'est sciences humaines et sociales. Donc, on a plusieurs projets en cours, notamment un projet en ce moment de réflexion sur les facteurs qui vont faciliter ou au contraire contraindre l'adhésion de l'enfant et de sa famille à un suivi au long terme. Voilà. Donc, en tout cas, ça me tenait à cœur de dire que l'accompagnement psychologique, c'était vraiment toute l'équipe, même si moi, je suis la seule psychologue. Donc, l'expérience du cancer chez l'enfant et l'adolescent, dont je disais en introduction que je ne pourrais pas dire à quel point cette expérience-là bouleverse. Il faut arrêter tout de suite.
Non.
Une minute. Donc, en tout cas, bon, de toute façon, j'ai effectivement pas le temps de dire à quel point ça, c'est une expérience qui bouleverse. En tout cas, l'ensemble des bouleversements à partir du moment de l'annonce jusqu'à tout le long de la maladie et aussi dans l'après-coup de la maladie fait qu'effectivement, beaucoup d'enfants ont besoin d'un accompagnement. C'est toujours un accompagnement qui est proposé et non imposé. Et l'accompagnement est aussi beaucoup à destination des parents, puisque dans cette idée que j'aime bien de dire qu'il faut envelopper l'enfant, l'enveloppe parentale, elle est vraiment à soigner. Si on garantit et si on soigne l'enveloppe parentale, alors on garantit quelque chose pour que l'enfant puisse au mieux traverser cette expérience du cancer. Donc voilà, il y a des entretiens qui sont à destination de l'enfant sur des temps de parole et d'échange qui vont lui permettre de s'approprier surtout l'expérience de la maladie et s'autoriser à mettre du récit sur cette expérience-là, que ça reste pas seulement des sensations corporelles et le fait d'être pacifié sur l'ensemble des examens et des soins, mais c'est vraiment lui permettre d'être actif et de raconter cette expérience du cancer. Donc c'est surtout ces espaces-là pour l'enfant, et à destination des parents, ça va être effectivement de leur permettre eux aussi de mettre du récit sur ce qui peut faire traumatisme en fait, hein, puisqu'ils sont confrontés à la mort potentielle de leur enfant. Et en tout cas, à partir du moment où on annonce le cancer, on annonce quelque chose, on met dans la tête l'idée de la mort de l'enfant, quand bien même le pronostic n'est pas du tout celui-ci. Mais en tout cas, à partir du moment où on annonce le cancer, on met les parents et les enfants face à un réel de la mort qui pourrait arriver. Donc c'est vraiment, nous, on est très vigilants à ça dans le service, à vraiment entourer ce moment d'annonce et aussi entourer les parents. C'est vraiment agir à destination de l'enfant, puisque ce qu'on constate, c'est qu'un grand nombre d'enfants, pendant l'expérience de l'hospitalisation, met en place des mécanismes de défense qui sont très importants et qui lui permettent de tenir, et qu'on ne va pas bousculer ces mécanismes-là. Donc parfois, on n'agit pas auprès de l'enfant, mais on agit auprès de la famille, ce qui a pour conséquence d'aider l'enfant à traverser cette expérience. Voilà pour l'ensemble des prises en charge que je propose. Ce qui est abordé très tôt, c'est les médecins qui l'abordent, puisque le temps d'annonce du cancer de l'enfant, c'est une annonce médicale. On est vigilant à ce que ce soit vraiment le médecin qui annonce le cancer à l'enfant. Dans le protocole d'annonce, ce qui se pratique, c'est qu'en tout cas, le médecin peut proposer un temps d'annonce aux parents et à l'enfant en même temps, et peut proposer ensuite, propose systématiquement un temps aux parents pour reprendre l'annonce de l'enfant et retourne auprès de l'enfant ensuite pour lui expliquer avec vraiment cet ajustement au niveau de développement de l'enfant. Moi, je le reprends. Alors moi, j'arrive dans l'après-coup, donc en fait, les enfants, ils ont toujours entendu quand je les rencontre le mot cancer. Ils l'ont entendu, ils se sont pas forcément appropriés. Donc mon travail à moi, c'est plutôt effectivement de travailler autour des représentations de la maladie qui sont pas forcément celles que les parents ont en tête. Ça s'échange en fait assez facilement. C'est pas très compliqué de parler avec un enfant de son cancer dans la mesure où ça a été annoncé par le médecin. Et il y a déjà les soins qui sont actifs. Après, ma vigilance à moi, c'est plutôt effectivement quelle représentation l'enfant a de son cancer. C'est ça qui m'importe dans ma pratique. Je pense que tous les professionnels du service, on est tous vigilants à respecter justement le développement de l'enfant. C'est vraiment dans les staffs hebdomadaires qu'on a, c'est une question qui revient très souvent, comment on garantit à l'enfant toutes les conditions de son développement sans aller en amont de son développement. Après, il y a souvent effectivement des questions, il y a beaucoup de questions comme ça autour du cancer de l'enfant, de est-ce que les enfants grandissent trop vite, est-ce qu'ils deviennent des adultes avant l'âge. Enfin, bon, il y a toute une série de représentations comme ça très ancrées. Moi, je suis toujours un peu embêtée pour répondre à cette question-là de façon figée, parce qu'en fait, ça dépend vraiment, dans la pratique, on voit que ça dépend vraiment de l'enfant avant la maladie, des parents, de comment il est entouré, il y a beaucoup de facteurs différents. En tout cas, ce qu'on voit, c'est peut-être une image plutôt rassurante, c'est que les enfants qui habitent le service habitent le service comme des enfants. C'est un service dans lequel on entend rigoler chaque jour, dans lequel, quand les enfants peuvent se déplacer en dehors des chambres, il y a des enfants qui peuvent courir avec un pied à terre, mais ils courent quand même. Il y a quand même quelque chose. On est un service de pédiatrie et on investit vraiment le fait d'être un service de pédiatrie. quant au fait à ce qu'ils grandissent plus vite que les autres, ils sont forcément confrontés à des questions qui, d'habitude, dans le développement, n'arrivent pas à ce moment-là, les questions de leur propre mort, leur propre finitude. Effectivement, il n'y a pas que les adolescents qui sont confrontés à ces questions-là dans le service dans lequel on est. Donc oui, ils sont confrontés à des questions plutôt d'adultes, peut-être, mais ils savent aussi rester enfants, en tout cas. On le voit.
Merci beaucoup pour votre intervention.
Merci à vous.
Bonjour à tous. Donc, idem, hein, merci beaucoup à l'ensemble des étudiants de psychologie donc, d'avoir organisé ce séminaire tout d'abord et puis de nous avoir invités à parler de ce sujet assez vaste donc, du cancer de l'enfant de façon du coup pluridisciplinaire. Et donc, on a préparé avec ma collègue Mireille de Navo cette partie donc, concernant l'approche neuropsychologique. Donc du coup, juste un premier état des lieux. Tout d'abord, on voulait quand même vous indiquer qu'il existe aussi des neuropsychologues dans certains établissements s'occupent uniquement d'enfants traités donc pour des cancers et qui donc auraient été certainement mieux placés que nous pour parler de ce sujet. Notamment donc à l'Institut Gustave Roussy qui est le premier centre européen de lutte contre le cancer. Donc il y a deux neuropsychologues à temps plein rien que pour le département de pédiatrie. En ce qui nous concerne, nous c'est vraiment ça représente qu'une petite partie de notre activité. Puisqu'on est amené donc à voir des enfants également qui présentent des pathologies très variées. Alors, l'intervention du psychologue spécialisé en neuropsychologie auprès d'enfants traités pour un cancer, il est principalement sollicité pour les enfants traités pour une tumeur cérébrale, on l'a vu aussi tout à l'heure, donc les tumeurs cérébrales malignes, hein, en l'occurrence, donc elles représentent 25% finalement des cancers de l'enfant, et donc c'est la deuxième cause du cancer chez l'enfant après les leucémies lymphoblastiques aiguës. Alors, notons que les tumeurs localisées dans la fosse postérieure représentent aussi 2/3 de ces tumeurs cérébrales pédiatriques et le méduloblastome et l'ependymome, donc sont les tumeurs malignes les plus fréquentes. Alors, rappelons quand même que ce sont des pathologies rares, mais vous l'aviez également dit tout à l'heure, et que le neuropsychologue intervient aussi dans le cas des tumeurs bénignes. Donc, ce n'était pas le sujet aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on est aussi, et finalement, je dirais même plus, amené à voir aussi, enfin, en tout cas moi, en ce qui me concerne dans ma pratique, des enfants avec des tumeurs bénignes. Alors, en tout cas aussi, ce qui est sûr, c'est que les tumeurs donc, de l'enfant sont très différentes des tumeurs cérébrales de l'adulte, à la fois donc, au niveau de la localisation et aussi du type histologique. Il y a vraiment une grande variété de tumeurs cérébrales. Alors, ça également, ça a été évoqué, mais c'est important de le redire, c'est qu'il y a le constat aujourd'hui, c'est que vraiment le pronostic vital des enfants traités pour une tumeur cérébrale, il s'est nettement amélioré grâce aux progrès divers, à la fois dans les domaines de l'imagerie, de la neurochirurgie, de la chimiothérapie et de la radiothérapie. Donc, ça fait émerger une morbidité secondaire à leur traitement et donc aussi l'importance de toutes les séquelles qu'il va falloir prendre en compte et prendre en charge. Parmi du coup les séquelles que peuvent présenter ces enfants, les troubles neurocognitifs occupent une place très importante avec des répercussions donc, dans divers domaines, au niveau de l'autonomie, au niveau des apprentissages, des performances scolaires, de l'insertion professionnelle et de la qualité de vie. Donc finalement, l'enjeu majeur aujourd'hui, ce serait vraiment d'essayer de prévenir et d'atténuer les séquelles neurocognitives à long terme. Alors, j'espère que je ne vais pas trop vite, mais on a prévu plein de choses. Alors, donc outre les aspects neurocognitifs, il nous semblait aussi important de nous attarder un petit peu sur les autres séquelles, puisque ça va dont souffrent ces enfants également fréquemment. Ça va aussi entrer en jeu quand on va réaliser des bilans notamment. Et puis pour la prise en charge, donc ces enfants peuvent présenter des séquelles neurologiques diverses, donc selon la localisation de la tumeur, des séquelles également endocriniennes, donc à plus long terme en cas de localisation, donc sur l'axe hypothalamo-hypophysaire, avec notamment un retard de croissance, également un déficit auditif qui peut être observé en lien avec la toxicité de certaines chimiothérapies ou en cas d'irradiation de la cochlée. Donc là aussi, ça peut majorer les difficultés cognitives. Également, on a un risque accru de seconde tumeur ou d'AVC qui est mis en avant. Et puis, on a parlé tout à l'heure de l'impact psychologique, mais c'est vrai qu'il est non négligeable, il est essentiel de tenir compte de ça. L'impact à la fois des traitements, des séquelles, qui est non négligeable. C'est vrai qu'il y a un mal-être évident, un manque de confiance en soi aussi qui peut émerger, qui s'installe. Le jeune, il fournit beaucoup d'efforts pour rester au niveau des exigences, des attentes, ses exigences personnelles, mais les exigences aussi de l'entourage, notamment scolaire. Et puis, finalement, il se fatigue à force de vouloir s'adapter à tout ça, et c'est le cercle vicieux qui se met donc en place. Et puis, sans oublier que les loisirs, la socialisation également sont relégués au second plan. Donc, il y a aussi une perte d'espace pour souffler pour ces jeunes-là. Alors, les séquelles neurocognitives, elles sont extrêmement variables puisqu'elles vont être liées en fait aux effets conjugués à la fois de la maladie et de son traitement. Et donc, on sait que le cerveau de l'enfant, il est en plein développement, qu'il est donc plus vulnérable que le cerveau de l'adulte. Et donc, ça va venir affecter vraiment tout le processus de vascularisation cérébrale et de ghyalinisation. Donc, vraiment, sur le long terme, ça va complètement impacter le développement de l'enfant par la suite. Et puis, ces séquelles, elles sont aussi dues aux données plus personnelles liées à l'histoire propre de l'enfant. Donc, on va en parler juste après. Alors justement, parmi tous les facteurs prédictifs de troubles cognitifs, hein, il en existe, je les ai listés là, donc je vous laisse lire. Je vais plutôt m'attarder sur les deux facteurs finalement les plus défavorables quant au développement cognitif, quant au développement voilà, de séquelles cognitives. Ça va être le jeune âge en fait de survenue. Donc plus l'enfant est jeune, plus le risque de séquelles intellectuelles à long terme il est important. Les déficits cognitifs, on sait qu'ils apparaissent aussi à distance des traitements. En fait, ils s'installent dans le temps. Il est impossible de mettre en évidence finalement parfois les déficits tant que la fonction n'est pas arrivée à maturité. Hein. Donc, c'est vraiment des déficits qui vont s'installer avec le temps. Donc, la notion de handicap aussi qui s'installe avec le temps. Et puis, l'autre facteur qui est véritablement le principal facteur de risque de séquelles neurocognitives, c'est la radiothérapie et notamment l'irradiation crânio-spinale. La dose qu'on va délivrer, la dose de rayon, le volume aussi qui reçoit l'escalade de la dose, et puis le fractionnement. Donc, on va observer un déclin cognitif en fait avec le temps, qui est d'autant plus important que l'enfant est jeune hein, au diagnostic. Alors, ce déclin, c'est pas un déclin des compétences, mais c'est plus qu'en fait l'enfant il y a un ralentissement en fait du rythme de ses apprentissages, et donc finalement avec le temps l'enfant, il y a un écart qui se creuse, un écart à la norme qui se creuse. C'est pas tant une perte de compétences. Voilà. Alors, juste un tout petit aperçu au niveau de la radiothérapie, ça nous paraissait important quand même. Quand même, il est à noter qu'il y a eu des progrès hein, qui ont été faits dans la radiothérapie conventionnelle, qui permettent donc de diminuer la neurotoxicité. Et puis aussi, on a aujourd'hui une technique qui s'est répandue, qui est la protonthérapie, qui se répand largement en pédiatrie, puisque ça va permettre finalement de diminuer les séquelles cognitives. Alors, la protonthérapie, c'est une technique qui utilise des faisceaux de protons et non pas des photons, et leur qualité physique permet de délivrer une dose maximale au niveau de la tumeur, sans irradier au-delà les tissus sains avoisinants, et donc ça permet de protéger ces tissus sains qui sont en développement, et donc ça réduit le risque de séquelles à long terme. C'est particulièrement intéressant. Par contre, ce n'est pas une technique qui est recommandée pour tous les types de tumeurs, et donc voilà, c'est vraiment spécialisé. On va le voir. Hop, juste après. Alors, premièrement, il y a une limite d'accès, c'est que ça n'existe pas partout en France. Il n'y a que trois centres qui ont cette technique-là, donc quand on fait partie. Hein, on a également Orsay et Nice. Et puis, l'autre limitation de la protonthérapie, c'est que finalement, c'est indiqué vraiment pour les jeunes enfants qui sont atteints d'une tumeur curable et peu infiltrante. Hein, donc, ce n'est pas, recommandé dans tous les types de tumeurs. Alors, hop, là, c'est ce qui nous semblait le plus intéressant, évidemment, parler aussi un petit peu de la prise en charge et de l'accompagnement de ces enfants, donc traités pour une tumeur cérébrale. Finalement, l'accompagnement de ces enfants va nécessiter l'intervention multidisciplinaire et coordonnée de nombreux soignants, et ça va s'inscrire dans les réseaux de suivi et de prise en charge des patients qui présentent des lésions cérébrales acquises, donc notamment justement le CMPR, donc à la Clairière, là où je travaille. Alors, c'est vrai qu'en plus, dans le service d'oncologie, hématologie du CHU de Caen, il n'y a pas de neuropsychologue. Donc, finalement, ça va être soit ma collègue Mireille Denaveau dans le service de pédiatrie du CHU qui va recevoir ces enfants-là, soit moi, donc au centre de rééducation, la Clairière, à Hérouville-Saint-Clair. Et c'est vrai que voilà, on a remarqué actuellement qu'il y avait, en tout cas nous au CMPR, on accueille de plus en plus ces jeunes-là, puisque finalement ils vont bénéficier d'un accompagnement avec un projet de soins global, un accompagnement dès la phase initiale finalement, avec voilà la mise en place de soins en kinésithérapie pour par exemple le renforcement moteur global, un travail d'équilibre, un travail de la marche, etc. En orthophonie aussi, on a des troubles de la déglutition, une paralysie faciale, voilà des troubles par exemple une aphasie. En ergothérapie également pour la prise en charge de l'hémiplégie, des troubles neurovisuels, l'autonomie dans les actes de la vie quotidienne, les éventuels aménagements de l'environnement. Également le suivi psychologique si l'enfant est demandeur, le suivi infirmier, puis une continuité également pédagogique puisqu'on a aussi des enseignants, voilà tout un service de scolarité. Dans tous les cas, il y a un suivi systématique qui est mis en place jusqu'à qui sera maintenu jusqu'à ce que le jeune soit accompagné par un service adulte. Enfin, c'est vraiment des enfants qu'on suit au long cours. Alors, le suivi neuropsychologique, il est essentiel aussi hein, dans cette prise en charge. D'une part, la réalisation d'un bilan, alors ça peut être aussi à l'aide de questionnaires, hein, permet de préciser le profil neuropsychologique du jeune afin de cibler ses forces, mais aussi les difficultés propres de ce jeune. Donc, on va dresser un profil neuropsychologique et en fait, ça va permettre de déterminer les aides dont ce jeune aura besoin. Les aides à savoir de la mise en place de séances hein, de remédiation, axées sur les déficits mis en avant, mais aussi la préconisation d'aménagement scolaire, par exemple un projet d'accueil quand le jeune devra retourner à l'école, la mise en place d'une AESH, hein, donc une personne voilà, qui sera là pour aider à la scolarité, ou même des préconisations concernant une orientation scolaire adaptée hein, si le jeune ne veut pas retourner dans un parcours ordinaire. Le bilan neuropsychologique, ce qui est important, c'est qu'il n'est pas préconisé en première intention. Ce n'est pas des jeunes qu'on va voir dès la phase initiale, en fait. Pour plein de raisons, alors souvent aussi parce que ces jeunes, ils sont déjà dans un parcours écologique lourd et qui, en fait, ils ne sont pas disponibles sur le plan psychique, mais pas non plus sur le plan cognitif ni physique, en fait. Donc, certes, ils ont des plaintes, ils ont des difficultés, mais finalement, ils ne sont pas mobilisables pour la réalisation d'un bilan. Donc, par contre, voilà, il y a évidemment, on peut tout à fait écouter la plainte et mettre en place des choses, mais c'est vrai que le bilan tel qu'on l'imagine ne se fait pas tout de suite. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, comme les troubles cognitifs s'installent avec le temps, on arrive plutôt en fait à distance des traitements de la maladie. Donc voilà, pour toutes ces raisons, un bilan complet se justifie plutôt à la fin du traitement et notamment lorsque la reprise de la scolarité est envisagée, puisque ça va permettre d'adapter cette scolarité. Et puis par la suite, des évaluations répétées à distance, hein, tout au long, voilà, à long terme, finalement, seront proposées aux jeunes. Alors, hop, j'ai bientôt terminé. Alors, la prise en charge, c'est pareil, hein, c'est comme le bilan, enfin, elle n'est pas systématique, cette prise en charge. Elle va dépendre évidemment des plaintes spontanées de l'enfant, de son entourage, des observations cliniques du neuropsychologue, mais aussi de l'équipe, hein, finalement, des professionnels avec qui il travaille, et puis des différents résultats aux tests, aux questionnaires. Lorsqu'elle est mise en place, la remédiation neurocognitive, elle se fait sur mesure, selon voilà, les plaintes, les intérêts du jeune. Et puis, on va travailler les principales difficultés observées. Alors, c'est vrai que c'est souvent la mémoire de travail, les capacités d'attention, les fonctions exécutives que sont voilà, les capacités à s'organiser, à planifier, à trouver plusieurs solutions à un même problème, etc. Voire même à se réguler sur le plan du comportement et des émotions. C'est vrai que c'est souvent ça qui est travaillé. Et puis, un dernier mot pour juste parler de la recherche, parce que le neuropsychologue a aussi une implication dans les travaux de recherche, dans le cadre notamment de protocoles thérapeutiques qui visent à justement mieux connaître les séquelles cognitives de ces enfants pour permettre d'adapter des stratégies thérapeutiques en comparant donc différents groupes de patients qui reçoivent des traitements différents. Donc, l'objectif, c'est toujours d'obtenir le meilleur taux de survie sans augmenter de manière inacceptable les séquelles. Ça, c'est vraiment l'objectif des recherches. Et donc ça, c'était ma petite conclusion que j'ai perdue, mais globalement, ça reprend un petit peu tout. Donc voilà, l'amélioration des traitements des tumeurs cérébrales malignes chez l'enfant, elle a permis de diminuer la mortalité, mais voilà, il y a une morbidité secondaire qui est importante, qui a donc une notion de handicap qui est à prendre en compte. Les troubles neurocognitifs s'installent avec le temps et donc contribuent à cette notion de handicap. Et donc, le rôle du neuropsychologue, il est important pour détecter les difficultés, pour aider la mise en place de projets thérapeutiques, dont notamment la rééducation. Et puis, bah oui, une activité de recherche qui est importante aussi dans la connaissance des troubles. Voilà. J'espère que ce n'est pas trop rapide. Oui. Alors, ça, c'est une question un peu complexe. En fait, il y a bien par rapport à un traumatisme crânien, donc il y a des similitudes, c'est vrai qu'il y a bien des séquelles, en fait, dans le cas du cancer, il y a bien des séquelles cognitives immédiates après la chirurgie, donc il y a des mécanismes compensatoires qui se mettent en place à ce moment-là. Après, la particularité du cancer cérébral, c'est justement, on en parlait de la radiothérapie, le fait que, voilà, il y a des irradiations répétées, etc., sur le cerveau de l'enfant, qui est donc un cerveau vulnérable en développement. Et donc, c'est tous ces mécanismes compensatoires qui vont être mis à mal puisque on a, voilà, c'est ce que j'ai dit, les processus de myélinisation, de vascularisation, etc., sont affectés. Ça va également affecter, en fait, les mécanismes compensatoires après de se mettre en place. Ça met vraiment à mal la plasticité, finalement, à long terme. Voilà, c'est la spécificité, on dirait, mais c'est vraiment lié à la radiothérapie. Mm. Oui, ah oui, oui, tout à fait. C'est oui, justement, c'est l'un des grands bénéfices de cette technique-là de radiothérapie. Enfin, c'est de la radiothérapie de précision qui permet justement finalement de s'attaquer qu'au lit tumoral et de laisser les structures avoisinantes un peu plus au repos. Enfin, voilà, les structures saines. Et donc oui, les séquelles cognitives. Enfin, il y a beaucoup moins de séquelles cognitives. Ouais, ouais.
Ben, merci beaucoup. Merci. Merci. Donc, bonjour et puis merci pour votre invitation. Donc, moi, je suis péricultrice et coordinatrice du réseau de cancérologie pédiatrique sur l'Aix-Basse-Normandie. Donc, mes missions, c'est de coordonner la prise en charge des enfants dans les hôpitaux périphériques, mais aussi avec un volet ville-hôpital. Dans mes missions, j'ai également tout ce qui concerne la formation. Et puis d'autres missions annexes, disons. Donc, on m'a demandé d'intervenir sur le projet qu'on a mis en place avec l'enseignante du service et l'éducatrice sur développer le lien école-hôpital. Peut-être simplement quelques mots pour les enfants qui sont traités dans le service. Qui en fait ne retournent pas dans l'établissement scolaire d'origine du fait de la baisse immunitaire. Donc pour cela, il y a une enseignante dans le service qui intervient 4 demi-journées par semaine au lit de l'enfant et c'est elle qui coordonne toute la prise en charge aussi de l'enseignement à domicile ou au sein du service pour les enfants qui sont au lycée. En tout cas, ils ne retournent pas dans l'établissement d'origine, mais ils suivent leur scolarité malgré tout. Donc, je vais vous parler de l'historique du projet et ensuite comment nous, on intervient dans les établissements scolaires. Ce projet a été mis en place parce qu'on avait des paroles informelles qui étaient exprimées par les enfants et les parents et les enseignants que nous avions recueillies dans le service et ces parents et ces enfants évoquaient la difficulté à retourner à l'école par peur, d'être confrontés au regard des autres, mais aussi par des moqueries. Et on avait eu aussi des échanges avec des enseignants et des professionnels du service autour du programme École et cinéma en 2003 qui ne savaient pas répondre aux questions des élèves, qui ne savaient pas les rassurer et qui voulaient éviter aussi tout ce qui était fantasme et représentation autour du cancer. La démarche du projet, c'est qu'on a fait un état des lieux d'abord auprès de d'autres centres d'oncologie et hématologie pédiatrique, notamment à Angers, où ils ont un CESAD et où ils intervenaient déjà dans les écoles. On a constitué un groupe de travail donc avec l'enseignante du service et l'éducatrice pour élaborer des questionnaires auprès des enfants malades, mais aussi des questionnaires auprès des enseignants de leur classe d'origine pour connaître vraiment leurs besoins réels, afin d'y définir nos priorités d'action, nos objectifs, et puis quel support pédagogique on allait utiliser pour intervenir dans les établissements scolaires. Donc, notre questionnement de départ auprès de l'enfant atteint d'un cancer, c'était quelles sont ses appréhensions à retourner à l'école, comment il vit sa maladie, sa différence, auprès des parents, quelles sont leurs craintes, auprès des enfants de la classe d'origine, qu'est-il dit ou non lors de la découverte d'un cancer chez l'un de leurs camarades? Quelles questions se posent-ils? Que s'imaginent-ils de la maladie, de l'hôpital? Que connaissent-ils de la maladie? Et auprès des enseignants, comment ils répondent aux questions des enfants sur la maladie? Comment vivent-ils les questions des enfants, la maladie de l'enfant? Donc, le premier questionnaire qu'on a fait a été réalisé auprès de l'enfant malade et de ses parents, et ça remonte à 2004. Donc, notre synthèse, c'est qu'on voulait cerner surtout les inquiétudes des parents et de leur enfant atteint d'un cancer à retourner à l'école pendant et après la maladie. Il y a certains enfants qui peuvent retourner quand même à l'école pendant la maladie. Il y a des moments, il y a des phases où ils peuvent y retourner. Et comme population, on avait pris les enfants qui étaient atteints d'un cancer, qui étaient en traitement ou traités depuis 2 ans. Et au total, ça faisait 44 enfants. Et on a eu 31 réponses sur 44. Donc, les résultats de ce questionnaire initial, ça montrait que les inquiétudes se situent principalement sur le plan émotionnel de la maladie grave et secondairement sur les apprentissages scolaires. Il y avait plus d'inquiétudes que de difficultés réelles lors de la réintégration de l'enfant. La fatigue était une des difficultés majeures rencontrées et les réelles difficultés se situent autant sur l'apprentissage et les contraintes scolaires que sur l'aspect émotionnel que représente la maladie. Donc là, on avait répertorié les besoins réels de l'enfant atteint d'un cancer. C'était surtout exprimer ses craintes à retourner à l'école, faire reconnaître leur degré de fatigue lors du retour à l'école, se sentir accepté et rassuré par les autres élèves de la classe et l'équipe pédagogique, maintenir leur niveau scolaire, conserver leur place au sein de la classe et de l'école, et être acteur de leur vie pendant la maladie. Pour les parents, c'était sentir leur enfant en sécurité et respecté par les autres élèves et l'équipe pédagogique, reconnaître aussi le degré de la fatigue de leur enfant pour qu'il se réhabitue aux contraintes scolaires, se sentir respecté dans leur rôle parental et établir une relation de confiance avec l'équipe pédagogique ayant en charge la scolarité de l'enfant. Le deuxième questionnaire, c'est a été réalisé auprès des enseignants de la classe d'origine. L'objectif était de connaître le questionnement, les appréhensions des enseignants à accueillir un enfant gravement malade au sein de leur classe et de répondre aux questions des autres élèves de la classe au sujet de la maladie cancéreuse et de ses représentations. Donc la population, c'était les enseignants qui avaient eu en charge éducative les mêmes enfants choisis lors du premier questionnaire et on avait 24 enseignants qui ont répondu sur 36. Pour la moitié des enseignants, il n'y a pas de difficulté lors de l'annonce. Et pour l'autre moitié des enseignants, il y avait une solitude à annoncer la maladie. Des sujets difficiles à aborder comme la mort, la maladie grave, sur la façon d'aborder la maladie et sur l'attitude la plus juste à adopter envers l'enfant malade. Donc, les besoins réels, c'était d'établir un partenariat avec l'enfant malade, les parents et les professionnels du service, de respecter leurs compétences, de se sentir soutenu par les professionnels de santé, de considérer l'enfant comme un élève malgré la maladie. Et pour les élèves de la classe, c'était exprimer leurs craintes par rapport à la maladie de leurs camarades et d'avoir un espace-temps pour exprimer leurs questionnements. Donc, nos priorités d'action et nos objectifs a été de développer le lien école-hôpital de la grande section de maternelle au lycée en partenariat avec l'enfant malade, ses parents et l'équipe pédagogique de l'établissement scolaire d'origine. Donc, en renforçant les compétences des enseignants dans la démarche d'annonce, en évoquant la maladie de l'élève atteint d'un cancer avec les autres élèves de la classe. Donc, je vais passer nos interventions. Alors, comment se passe concrètement quand on intervient? On propose toujours, mais ce n'est jamais une obligation. Quand il y a une demande de la part de l'enfant ou des parents à intervenir lors de la première réintégration de l'enfant dans sa classe d'origine, on prend contact avec l'enseignant de la classe d'origine. On leur demande de nous faire remonter les questions que se posent les camarades de la classe. Alors, soit par mail, soit ils nous l'adressent à nous, soit ils l'adressent directement aux parents. On demande en fait aux parents et à l'enfant, selon son âge bien sûr, mais c'est souvent en primaire qu'on intervient. Il y a surtout des demandes en primaire, de répondre aux questions pour respecter le secret médical, ce qu'ils veulent dire ou ne pas dire, et puis écarter peut-être des questions qui pourraient être gênantes pour l'enfant ou pour les parents. On demande également à l'enfant, s'il le souhaite, de faire un petit travail autour de sa maladie. Ça peut être, par exemple, de faire un dessin sur un grand format, qui peut expliquer son parcours de soins, qui peut expliquer sa maladie et qu'il peut laisser ensuite dans la classe. Ça peut être aussi pour une petite fille, elle a voulu se filmer dans le service. Donc, on a fait un CD pour montrer ce qu'elle voulait en fait expliquer de sa maladie aux autres enfants. Et une fois qu'on a réuni toutes ces conditions-là, on prend un rendez-vous pour intervenir dans la classe avec des supports pédagogiques qui ont été élaborés. Alors, notamment par un court-métrage qui a été réalisé par Monsieur Romy, qui est un papa réalisateur dont sa petite-fille a été soignée, qui était atteinte d'une leucémie, et qui nous a fait un court-métrage de 20 minutes qui parle du vécu de la maladie de l'enfant, raconté par l'enfant, dans le service, donc avec les professionnels qui soignent l'enfant, avec le lieu précisément là où est soigné l'enfant, et qui reprend tout le parcours de soins de l'enfant. Et on demande également à ce que l'un des parents ou les deux parents et l'enfant soient présents au moment de ce retour à l'école. Et nous, on est là en complémentarité et en soutien pour répondre également aux questions, tout en cadrant l'intervention pour ne pas avoir maintes questions comme souvent ça peut se passer. Donc voilà concrètement comment ça se passe quand on intervient dans la classe. Et en moyenne, par an, on a 3 à 4 interventions dans les établissements scolaires. Et plus principalement, les demandes se situent de la grande section et au niveau du primaire. C'est très rare qu'on intervienne dans les collèges ou dans les lycées, mais lié à l'âge, bien évidemment. L'adolescent n'a sûrement pas envie qu'on entendre parler de sa maladie. Voilà, on a d'autres supports pédagogiques pour expliquer en fait ce qu'est l'aplasie, qu'on a fait avec l'éducatrice. Et puis, on fait une évaluation en interne avec un questionnaire de satisfaction auprès des enseignants pour voir comment s'est passée notre intervention et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Voilà, bon, là, c'est… Alors, on avait répertorié aussi quelles étaient les questions que se posaient les élèves de la classe. Souvent, en fait, il y a des questions autour de la vie à l'hôpital. Il y a aussi souvent la contagion qui revient souvent. Est-ce que c'est contagieux? Qu'est-ce qu'on fait aussi à l'hôpital en dehors des soins? Donc, on explique en effet qu'à l'hôpital, on ne fait pas que des soins, mais qu'il y a aussi une vie tout autour, c'est-à-dire que l'enfant peut jouer. L'enfant a aussi de l'école. On explique aussi la maladie. Mais également, il y a aussi la perte des cheveux, souvent, qui est évoquée. Les principales questions sont sur ça. Et ça permet, en fait, quand on intervient dans les écoles, de cadrer l'intervention et de dire à l'enfant qui est malade, toutes les questions ont été posées sur un temps donné. Et après ça, on peut passer à autre chose. Ça permet que l'enfant, dans la cour de récréation, ne soit pas tout le temps sollicité par les autres enfants où il y a des questions qui reviennent sans arrêt et qui reste un enfant à part entière, malgré la maladie. Si, je pense qu'en effet, les enfants qui ne retournent pas à l'école, il y a un manque, évidemment, de ne pas retrouver leurs camarades. C'est compliqué pour certains de ne pas retourner à l'école, même si, en effet, il y a des interventions, des enseignants qui viennent au domicile ou qui viennent au sein de l'hôpital. Mais ça compense probablement pas, en effet, la rupture qu'il peut y avoir avec l'école.
Merci. Il y a D'autres questions?
Vous avez évoqué, et on comprend bien que les collégiens ou les lycéens n'ont pas spécialement envie qu'il y ait une intervention en classe. Comment vous gérez l'information à destination du corps enseignant qui, au collège ou au lycée, est beaucoup plus variée et donc elles n'ont pas le même lien qu'à l'école primaire et donc pas la même connaissance et peut-être un peu, entre guillemets, brutale avec la dose s'il n'a pas connaissance de la situation particulière et des difficultés au primaire. Donc, c'est comment c'est accompagné, même s'il n'y a pas de volonté qu'on peut comprendre d'intervention en classe, mais pour le bon accueil par l'équipe pédagogique et globalement.
C'est l'enseignante qui coordonne cette prise en charge. Dès qu'en effet, il y a un ado qui est atteint de cancer, c'est l'enseignante qui appelle le collège ou le lycée pour les informer. Enfin, il n'y a pas que l'enseignant, il y a aussi les parents, de toute façon, en premier lieu, qui font remonter l'information. Après, il y a aussi beaucoup les réseaux sociaux où, en effet, les camarades, les élèves de la classe sont quelquefois au courant. Après, c'est le jeune qui dit ou qui ne dit pas ce qu'il a envie de dire sur sa maladie. Mais généralement, les élèves sont quand même bien accueillis. En fait, il y a quand même beaucoup plus de craintes que vraiment de réelles difficultés quand ils retournent dans les établissements scolaires. Alors, quelquefois, il peut y avoir quelques moqueries, en effet, parce qu'il y a eu la chute des cheveux ou parce que l'enfant porte encore une casquette ou un bonnet, mais c'est quand même relativement rare. C'est plus, l'enfant qui a été malade qui projette des angoisses et sa différence vis-à-vis de l'autre. Oui, on a demandé l'autorisation à l'inspection d'académie pour intervenir dans les établissements scolaires.
Parce que c'est les établissements qui vous contactent ou c'est vous qui proposez les services quand vous avez connaissance d'un enfant atteint d'un cancer qui revient à l'école? Est-ce que c'est l'établissement qui appelle à vous, à votre service?
Non, c'est nous qui allons vers l'établissement. Oui. Parce qu'il y a une demande à la base de l'enfant et des parents bien souvent. Et puis, il y a des liens déjà créés avec l'enseignante qui est en lien avec les établissements scolaires, qui, de toute façon, les appelle systématiquement.
Merci beaucoup pour votre intervention.
Eh bien, écoutez, nous aussi, nous vous remercions de nous avoir invités. Donc, on va peut-être se présenter si... Alors moi, je suis Béatrice Siné, présidente de l'association Cadet-Roussel.
Moi, Flora Marguerite, donc, vice-présidente et bénévole dans l'association depuis la création, donc en 92.
Donc c'est une association effectivement qui a été créée en 92 à l'initiative de parents d'un enfant malade. Et au départ, l'objectif principal était de créer un appart, d'avoir un appartement pour que les parents puissent loger le plus proche possible du CHU de Caen, sachant que les enfants hospitalisés, malades, malheureusement, ne sont pas que sur Caen et que ça touche différents départements. Et que le but essentiel, c'était que l'enfant puisse être le plus longtemps et le plus souvent proche de son enfant. Donc, ça a été le premier projet qui a abouti effectivement. Aujourd'hui, nous sommes propriétaires d'un appartement qui se trouve à 10 minutes du CHU de Caen et qui peut accueillir 3 familles. Donc, voilà. Et nous avons aussi également un mobile home qui se trouve près de Cancale et qui permet aux parents de pouvoir, de temps en temps, enfin quand c'est possible, pouvoir souffler et de pouvoir se retrouver aussi la famille, et sans oublier, effectivement, comme vous pouviez le préciser tout à l'heure, la fratrie, en fait. Les frères et sœurs peuvent aussi également, bien sûr, aller dans ce mobilhome. Donc, le but principal de l'association a été d'aider les parents et les enfants dont les enfants sont atteints de cancer. Et nous intervenons à 90% dans le service d'onco-hématologie pédiatrique du CHU. Il nous arrive effectivement d'intervenir dans des hôpitaux un petit peu périphériques où il peut y avoir un relais au niveau des soins, particulièrement nous, puisque le siège social de l'association se trouve à Saint-Georges-des-Groseilliers, près de Flers. Et nous avons, quelquefois aussi, nous intervenons à l'hôpital de Flers. Donc, dans le cadre du projet de l'association, c'est d'apporter du confort, de l'aide, du soutien aux familles et aussi, si c'est possible, de pouvoir aussi contribuer à des aides parce que nous, effectivement, en tant qu'association, eh bien, nous, c'est aussi l'argent, le financement. Donc, il faut qu'on ait de l'argent pour pouvoir apporter du confort, de l'aide, du soutien auprès des enfants et des familles. Et c'est un peu notre combat de tous les jours. C'est différent, évidemment. Ce n'est pas le même combat que vous tous, mais nous, c'est le combat de l'argent pour pouvoir apporter ces aides.
On est là aussi pour donner du plaisir, en fait.
Voilà.
Pour toute la vie, une vie, enfin voilà. Pas que les enfants malades.
Oui, oui, oui. Et avec cet argent qu'on peut récupérer grâce à des dons, nous pouvons financer des interventions au sein du service d'onco-hématologie pédiatrique, à savoir qu'aujourd'hui, nous pouvons financer 4 intervenants, une conteuse, une musicienne, une socio-esthéticienne et aussi, enfin nous on dit coach sportive, qui peut proposer des activités sportives adaptées aux enfants dans le service. Donc ça, ce sont déjà 4 choses qui, enfin, à notre sens, semblent importantes, mais je pense que les 2 dames qui sont présentes peuvent le témoigner. Ce que nous proposons aussi, c'est le mercredi soir, enfin, nous finançons, parce que nous, en fait, on est là plutôt pour payer, on va dire. Donc, il y a la soirée pizza, c'est-à-dire que les enfants peuvent choisir une pizza. Donc, le mercredi soir, dans le service, il y a des odeurs de pizza. Et on pense effectivement que c'est aussi un temps agréable pour les enfants. Et puis, les parents aussi, parce que de voir leur enfant manger, c'est toujours aussi un plaisir. Donc, voilà, au niveau du service, nous contribuons aussi pour les achats ponctuels, les anniversaires, Noël, bien sûr. Alors, Noël, c'est la grande fête de l'année. Malheureusement, cette année n'a pas pu avoir lieu, mais nous n'avons pas oublié quand même les achats de Noël pour les enfants. Et pour cette fête de Noël, le souhait aussi de l'association, c'est que les frères et sœurs ne soient pas mis à l'écart et donc ils peuvent venir au spectacle, au goûter et ils choisissent aussi leurs cadeaux comme les frères et sœurs malades. Donc, c'est un point important pour nous. Donc, prends le relais.
Donc, on intervient aussi le jeudi matin autour de Café Croissant. Donc, on est des bénévoles formés à l'écoute. Et on vient devant des familles qui le souhaitent. C'est les parents qui mènent un peu le débat. C'est soit ils parlent de la maladie, soit ils parlent de ce qui se passe ou autre. Plein de sujets sont abordés, mais c'est toujours les parents. Enfin, nous, on n'essaie pas de savoir ce que les enfants ont, pourquoi ils sont là. C'est les parents qui abordent le sujet. Nous, on a déjà le secret professionnel. Et on respecte aussi leur vécu. Et vraiment, on est là pour de l'écoute beaucoup. Hein.
On ne donne pas de réponse. Alors, ce temps de café croissant, il a lieu dans le service. Et nous sommes dans la pièce des parents, enfin, la pièce des parents qu'ils utilisent pour leur repas, enfin, le goûter, enfin. Voilà, donc nous sommes vraiment dans le service. Donc tous les jeudis matins de 10h à midi. Donc c'est un moment effectivement qui est très très fort puisque nous sommes confrontés quelquefois à des situations ou des mamans difficiles évidemment puisque c'est l'enfant qui est malade. Et notre difficulté à nous, comme vous pouvez le dire, Flora, c'était de ne pas donner de réponse, mais on est plus là à l'écoute. Alors, quelquefois, ils nous piègent aussi un petit peu parce que vu qu'on ne fait pas partie du milieu médical, ils peuvent aussi imaginer qu'on va donner des réponses qu'ils ne vont pas peut-être oser poser la question aux médecins. Et nous, on ne donne jamais de réponse. Donc, on renvoie vers le service ou on renvoie vers vous quand on sent que ça touche plutôt le côté psychologique ou un peu la détresse. Hein. Et nous, notre difficulté aussi, c'est qu'on se retrouve confronté entre les parents qui viennent d'apprendre la maladie, les parents qui, eux, alors tout le monde est dans la même pièce autour de, enfin, on est assis autour d'une table, hein. Les parents qui viennent d'apprendre que l'enfant va mieux, les parents qui, enfin voilà. Donc, nous, on est là plus dans l'écoute et on ne donne pas de réponse.
On n'est pas des professionnels.
On n'est pas des professionnels. Le but, nous, c'est de partager un café, des croissants. On est plutôt là pour essayer de détendre, on va dire, un moment de la semaine pendant 2 heures où ils peuvent se ressourcer un petit peu.
Quelquefois, ils déversent aussi. Hein. Tout ce qui ne va pas, ils déversent plus facilement avec nous, peut-être qu'avec les soignants. Donc, pas au même moment, en tous les cas. Et entre eux, ils s'échangent beaucoup, en fait. Les parents entre eux se donnent des conseils, etc. Donc voilà, nous, c'est vraiment une de l'écoute. Ouais. Après, ils nous sollicitent, mais on ne connaît pas ce qui se passe, on ne connaît pas les soins, on n'est pas là pour ça. Donc voilà. Et puis autrement, en fait, ah oui, alors, on a eu la chance d'être accueillis en 2000 et en 2002 à Clairefontaine, au centre d'entraînement de l'équipe de France. Alors ça, c'est un moment merveilleux parce que les enfants oublient la maladie. À ce moment-là, ce sont des enfants, on dirait entre parenthèses, normaux. Et je me souviens toujours d'un garçon qui était amputé d'une jambe, qui est arrivé avec un fauteuil roulant. Et quand il était devant l'équipe de France, il a abandonné, il a repris les liquides, il était debout comme tout le monde. Enfin, j'ai trouvé ça merveilleux parce qu'il a ces petits yeux-là. Et nous, on est là pour ça, pour avoir plein de soleil dans les yeux, en fait. On est là pour ça, en fait. C'est notre objectif.
Alors nous, ce qu'on peut proposer aussi, c'est alors toujours en lien avec le service. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, l'allocation du mobilhome, elle ne se fait pas par nous. Nous, on a le mobilhome, on propose tout ce qui est prestations, mais après, les réservations se font toujours en lien avec le service parce que quelquefois, ça arrive qu'il y a des parents qui nous disent « Tiens, nous, on aimerait bien la semaine du 14 juillet. » Mais nous, on ne sait pas, la semaine du 14 juillet, l'enfant peut être en soins, enfin… Donc, on renvoie vers le service. Par contre, nous, on va gérer les choses de parasol cassé, des choses comme ça, mais pas du tout tout ce qui est… Et on peut aussi proposer ponctuellement des sorties, soit un spectacle au Zénith. On avait pris pendant un moment un abonnement au Stade Malherbe. Et enfin, voilà, nous, on est là aussi pour le loisir, pour la détente. Dès que c'est possible, dès que l'enfant peut un petit peu découvrir autre chose que le soin. Mais toujours en lien avec le service, hein, bien sûr. On ne va jamais proposer individuellement à une famille une sortie. On dit, voilà, c'est possible. Maintenant, vous voyez avec le service à quel moment ça peut se faire, ce qui est possible de faire. Enfin. Donc, voilà, Donc, dans les projets quand même qui ont pu aboutir, donc on a refait l'appartement totalement il y a 3 ans. C'est-à-dire que nous, c'est l'aménagement total, c'est-à-dire la cuisine, la salle de bain, les lits, enfin voilà, pour que les parents ils soient dans un cadre plutôt agréable. On a aussi récemment aménagé la pièce des parents, la fameuse pièce dont nous, on fait les cafés croissants, mais qui est utilisée 24 heures sur 24, enfin, toute la, pour pouvoir… donc là, quand on dit aménagement, c'est-à-dire qu'on a acheté une table, des chaises, frigidaire, micro-ondes, toujours aussi en lien avec le service, parce qu'il faut évidemment du matériel professionnel, enfin médical. Et nous avons aussi aménagé une chambre à l'hôpital de Flers, totalement aussi, pour que les enfants qui ont des soins, des chimios, des choses qui peuvent se faire à l'hôpital de Flers, puissent aussi être dans une chambre plutôt confortable, agréable, et aussi de façon à ce que les parents puissent y dormir. C'est-à-dire qu'on a financé un canapé qui fait lit. Donc, on essaie au maximum, selon nos moyens, bien sûr, de pouvoir réaliser des projets qui apportent du confort aux enfants, à la famille. Et puis, on peut aussi, nous, répondre à des besoins du service. Et le service peut nous demander... Je me souviens qu'il y avait eu un petit livre, je crois, qui avait été fait pour expliquer la maladie. Vous nous aviez demandé si on voulait financièrement...
Il y a... Non, c'était... En fait, on a mis en place...
Ah oui, c'est ça.
Oui, un compte pour l'enfant. Enfin, on a écrit un compte et on a illustré un compte qui a été financé
oui.
par Fabien Roussel pour expliquer en fait à l'enfant comment respirer dans le masque.
Mmh. Ah oui,
le masque, pour l'amener vers un imaginaire avec des métaphores. C'est ça pour
qu'il y ait. Oui, oui, oui.
Pour l'enfant de 3 ans.
Donc, on est, quand on peut, on fait.
On nous a sollicité quelques fois aussi pour un enfant qui était transféré sur Paris où un des parents voulait aussi suivre l'enfant, mais il ne s'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc, vous avez demandé si on pouvait financer le transport d'un membre de la famille. Des choses ponctuelles comme ça qu'on peut apporter un petit peu plus.
Merci beaucoup.
Alors, aux parents endeuillés.
Endeuillés.
Eh bien, c'est-à-dire que les parents endeuillés ne reviennent plus dans le service. Ouais. Après, les fratries, ça arrive quelquefois où, vu que c'est un endroit, un espace qui est réservé aux familles, mais la famille aussi élargie, il peut y avoir des frères et sœurs. Donc, ça nous arrive effectivement de se trouver à prendre le café avec
les grands-parents.
Ou les grands-parents, ou des oncles et tantes, et parfois même les enfants hospitalisés. Quand ils peuvent sortir de leur chambre, ils viennent avec ou leur papa ou leur maman prendre un café. Un café, chocolat, thé.
Oui, oui. C'était demandé par les médecins du service. Et...
Oui.
D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des psychologues qui viennent dans votre...
Non, pas du tout. Du tout, c'est nous. Il y a un cabinet sur Flair, parce qu'on est pratiquement tous de Flair.
D'accord.
Et on va tous les 3 mois.
C'est ça, hein, Béatrice ?
Oui, on a une rencontre tous les 3 mois.
Oui.
C'est donc, on peut avoir plus s'il y a besoin. Mais... Oui.
C'est une demande du service, oui. Des médecins du service, effectivement. Oui. Où on doit être supervisé, accompagné par un psychologue.
Oui,
oui, tout à fait.
Et ce psychologue est fourni, entre guillemets, par...
Cadet Roussel.
C'est un libéral.
Oui, c'est un libéral. C'est nous qui... C'est l'association qui honore ses consultations. Ses honoraires sont pris en charge par l'association. Alors, effectivement, les questions qui sont toujours un petit peu difficiles, c'est quand on nous demande, par exemple, si on sait, nous, s'il y a beaucoup d'enfants qui décèdent dans le service. Si on est au courant de tel... Ça arrive quelquefois où il y a des enfants qui décèdent. Et puis, ben, nous, c'est pas à nous, effectivement, d'apporter l'information aux familles qui viennent. Ils aimeraient bien savoir, ils n'osent pas forcément le demander. Et du coup, ils nous le demandent à nous en se disant bah, peut-être qu'ils vont pouvoir nous le dire. Mais nous, on ne veut pas non plus forcément le dire. Enfin, vous voyez, alors, quelquefois, on est dans une situation qui n'est pas toujours confortable.
On a rencontré de la colère aussi. Quelquefois,
oui.
La colère. L'annonce vient d'être... au tout début de l'annonce, quelquefois, je me souviens d'un papa très en colère. Il a pu déverser.
Alors, en colère aussi contre les médecins.
Oui.
Oui. Parce que le médecin, comme c'est lui qui annonce, donc effectivement, donc nous, on va être témoins de la colère, oui, et puis du mécontentement, des soins, du médecin. Alors, nous, on essaie effectivement d'apaiser, mais notre rôle, elle n'est pas toujours facile et confortable. Parce que, enfin, la colère, elle est normale quelque part.
Normalement, on ne doit pas faire ça.
Non.
On ne doit pas faire ça parce qu'ils ont confiance en nous. Ils déversent auprès de nous. Ils n'ont pas envie de... Enfin, ça reste dans la pièce.
En fait. Oui. Alors...
Ça est arrivé?
Oui, quelquefois.
Ouais, quand on sentait vraiment qu'ils étaient très très mal, ou voilà, pour leur venir en aide, ou voilà, mais c'est très rare. On ne doit pas faire ça. Après, il faut avoir confiance. Il faut aussi qu'ils nous adoptent. Et puis, au tout début, ils ne parlent pas trop. Et puis, au fur et à mesure qu'on y va, des semaines, ils se lâchent un peu plus. Et là, on n'a pas le droit de trahir leur confiance, en fait. Il faut vraiment qu'on sente qu'ils essaient. Très fragile et ça peut être dangereux. Et voilà.
C'est-à-dire
pas arrivé souvent.
Non. Notre rôle, c'est pas de faire l'intermédiaire entre le médical et eux. Nous, notre rôle, on doit être le.
On doit être les bons éponges, en fait.
Voilà, et le plus neutre possible. Non, alors nous, c'est. Non, pas du tout.
On les renvoie toujours vers l'équipe, en fait.
Voilà,
il y a toujours quelqu'un dans l'équipe qui va
vers Camille qui est là. Je dis Camille parce que les parents, c'est comme ça qu'ils vous appellent dans le service. Hein. Voilà, oui. Et nous, voilà, on va renvoyer vers Camille ou vers l'équipe soignante, mais surtout pas donner des adresses, pas du tout.
Ouais, je pense qu'effectivement, quand on a ce genre de questions, c'est parce qu'ils n'osent pas le demander aux professionnels. Ouais. Parce que bah, ce sont souvent eux qui annoncent les mauvaises choses. Donc, je pense que des fois, ils ont besoin aussi de prendre du recul, de ne pas être toujours dans les mauvaises choses. Donc, nous, on est là pour apporter du bien-être, donc ils se lâchent plus facilement, ils vont nous demander. Puis, après, on les aide. On dit, mais non, il n'y a pas de souci, vous allez voir. Ils vont vous aider. Ils vont... Voilà. Surtout quand c'est au début de la maladie, en fait, ils ne connaissent pas trop l'équipe. Donc, en fait, on les rassure. Ouais. Mais après, entre parents, ils le font aussi, mais on voit bien les échanges entre eux. Hein. C'est très... Ouais. On entend des choses difficiles à entendre, mais on entend des choses très sympathiques aussi.
Bah, en fait, c'est très variable.
Oui.
Par exemple, au moment de l'été, on va préparer le mobilhome, c'est énormément de temps. Mmh. Donc, entre autres, en plus, c'est un petit peu loin du domicile.
L'été, oui, c'est assez chargé. Et au moment de Noël, en fait. Mais en plus, on fait les cafés croissants, donc c'est toutes les semaines, donc ça revient rapidement. On travaille tous, pratiquement. Donc, c'est en plus de notre travail.
J'allais revenir à la question. Enfin, on a dans les bénévoles des cafés croissants, on est quand même pas mal de soignants. Rien à voir avec le CHU. Hein. C'est un petit peu un recrutement entre notre entourage. On a quelquefois des questions des parents. Pourquoi vous êtes ici? Qu'est-ce qui vous a amené à être là? Et là, on est un peu piégé. Parce que on n'ose pas trop dire qu'on est soignant, parce qu'on a peur qu'ils nous posent des questions qui nous tuent notre rôle, parce qu'on n'est pas là comme soignant. Donc là, ça se complique un peu. Donc, on ne va pas leur mentir. Hein. Moi, malheureusement, j'ai eu une enfant malade, donc je suis arrivée à la session à cause ou grâce à ça, je ne sais pas comment dire. Et là, des fois, est-ce que vous avez un enfant malade? Alors là, c'est compliqué aussi. Qu'est-ce qu'on doit dire? Moi, j'ai eu la chance que ma fille soit guérie. Si mon enfant était décédé, qu'est-ce qu'on va dire? Parce que des fois, il y en a qui posent des questions comme ça. Et on ne va pas mentir. Donc voilà. Mais bon, ça se fait quand même.